Nous sommes en train d'aller doucement, doucement, mais sûrement, on avance et j'espère qu'avec tous les passages que nous sommes en train de voir, nous comprenons les enjeux. Restez dans les limites que Dieu a fixées parce que nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans connaître les limites, sans connaître son couloir, sans connaître sa voix. Alors, ce matin, je vais nous inviter à lire Lévitique chapitre 10. Et là encore, nous allons découvrir encore ce qui nous fera sortir des limites de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes exposés. Lévitique chapitre 10, le verset 1er. La parole de Dieu déclare ceci, Lévitique, c'est le livre de Moïse. Chapitre 10, verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré. » Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. C'est assez impressionnant. Ce que nous venons de lire, parce que ici nous découvrons deux serviteurs de Dieu qui se sont approchés de Dieu à leur manière. Vous voyez, même pour s'approcher de Dieu, on ne s'approche pas n'importe comment. Le voile a été déchiré, c'est vrai. Mais celui qui est derrière le voile, la gloire qui est derrière le voile n'a pas changé. C'est Dieu. Et donc comme c'est Dieu, Dieu reste dans ses principes.
Merci.
Premier principe important, c'est le principe de la sanctification. On ne s'approche pas de Dieu sans être sanctifié. Sans être sanctifié soi-même, mais sans également le sanctifier lui-même. Et le manque de sanctification va nous amener à la négligence. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Ils n'ont pas sanctifié le Seigneur et ils ont fait les choses de façon négligente. Ils se sont dit le plus important, c'est de venir apporter que le feu brûle sur l'autel, quoi. Et puis Dieu sera content. Vous voyez, déjà même le schéma de leur réflexion n'était pas cohérent. Parce que dans le schéma de leur réflexion, ils se sont dit, le plus important, on va venir brûler, le feu va brûler sur l'autel, le parfum, Dieu il est content. Non, c'est pas ça, le problème il n'est pas là. Vous voyez, même dans le schéma de notre réflexion, c'est même pas nous qui devons penser comment servir Dieu. Nous devons servir Dieu comme lui, il le veut, donc dans la pensée de Dieu, pas dans la nôtre. C'est pourquoi on dit que tu l'aimeras même de toute ta pensée. Parce que ce n'est pas à l'homme que Dieu a remis la responsabilité d'imaginer le culte et le sacerdoce. Même lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël qu'ils vont sortir d'Égypte pour aller dans le désert faire un culte, Dieu avait déjà le schéma du culte. Il n'a pas dit, bon, comme vous avez vu la manière dont les Égyptiens, ils adorent Dieu, faisons une transposition et faites la même chose dans le désert. Non, même le culte, dans sa manière de faire, Dieu avait ses règles. Et Nadab et Abihu, ils sont venus comme ça. Ils ont dit, le plus important, il faut que le feu brûle sur l'autel. Ce qui est arrivé, est arrivé. Ils sont morts. Ils ont été frappés par Dieu. Parce qu'ils n'étaient plus dans le cadre que Dieu avait fixé. Dieu avait bien expliqué auparavant comment le service devait se faire et où, d'où devait venir le feu. Le feu qui devait brûler devait venir d'où? C'était pas de n'importe où. Hein. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum. Le feu qui devait être, qui devait servir justement à l'autel des parfums, tout ça là, c'est le feu qui venait de l'autel des reins. Il ne devait pas prendre un autre feu, c'est le feu qui brûlait déjà sur l'autel. Ce n'est pas bon, on allume n'importe quel feu, on va rentrer, on va faire notre service. Non, non. Le feu était déjà allumé. Et ils ont pris un feu étranger et ils l'ont apporté sur l'autel. Et là, ils ont eu des problèmes. Donc, là, le manque de sanctification va nous coûter. Exode 19, plutôt, oui, on va lire Exode 19, verset 22. L'importance de vraiment nous sanctifier, hein, frères et sœurs, c'est-à-dire rester dans les limites de Dieu. Exode 19, verset 22. La Bible déclare ceci, Exode 19, verset 22, c'est une réponse aussi à ce qui s'est passé. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel les frappe de mort. Sanctification, même le sacrificateur, pas que le peuple, même le sacrificateur. Ça veut donc dire que si je dois contextualiser, aujourd'hui, c'est bien que je vous dise de vous sanctifier, moi-même je dois me sanctifier. Nous ne prêchons pas pour vous, on se prêche aussi à nous-mêmes. Autant nous vous demandons d'appliquer la parole de Dieu, autant nous devons l'appliquer sur notre propre vie. Parce que nous ne sommes pas exclus de cela. Le peuple devait se sanctifier, les sacrificateurs également. Pourtant, on aurait pu se dire, vous êtes sacrificateur, c'est déjà un acquis, que le peuple seul se sanctifie. Et le peuple et les sacrificateurs devaient être sanctifiés. Nous prêchons la vérité de la parole de Dieu. Cette même vérité, nous devons l'appliquer, nous qui vous l'annonçons, sur notre propre vie. On n'est pas exclus. Nous également, nous devons appliquer la parole de Dieu. Sanctification. Nombre 20. Versets 7 à 12. Nombre 20. Versets 7 à 12. Voilà encore un manque de sanctification. Nombre 20. Verset 7. Nombre 20. Verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge. Et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Écoutez bien ce que le Seigneur a dit. Hein. Il leur a dit de parler. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Dieu n'a pas dit à Moïse de prendre sa verge. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que c'est ce qu'on leur a, c'est pas ce qu'on leur a demandé de faire? Déjà la manière de parler, il a mal parlé.
Avec colère.
Ce n'est pas eux de le faire. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Si l'histoire s'arrêtait au verset 11, ce serait bien. Mais l'histoire ne s'arrête pas au verset 11 et le verset 12. Frères et sœurs, avant que je rentre dans ce verset 12, c'est une interpellation pour tout le monde et pour tous ceux qui ont des dons. Dieu honore à son nom qui est invoqué. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des résultats que Dieu est d'accord avec son instrument. Il y a eu le résultat. La Bible dit qu'il ne se répond pas de ses dons et de son appel. Mais ce n'est pas parce que le don fonctionne que Dieu est d'accord avec ta vie.
Amen.
Parce que Moïse, là, il y a eu la manifestation. Dieu n'était pas obligé de se manifester.
C'est vrai.
Mais en même temps, Moïse était l'autorité du peuple. Dieu a honoré. Mais il avait un rendez-vous avec Moïse. C'est pourquoi au verset 12, il dit, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous voyez, Dieu agit même au-delà du fait même qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, Dieu a agi. C'est même pas parce qu'ils ont eu la foi. Parce que Dieu dit, vous n'avez pas cru. Il agit même s'ils n'ont pas eu la foi. Là. Vous n'avez pas cru en moi. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous n'entrerez point. Parce que vous n'avez pas cru. Quel était le problème? Mais le problème, c'est que Dieu leur a dit de parler au rocher, c'est tout. Dieu ne leur a pas dit de frapper le rocher. Dieu leur a dit, parler au rocher, point, barre. Ils devaient obéir. Ils n'ont pas parlé. Hein. Ils n'ont pas parlé. Ils ont frappé le rocher avec la verge. Alors que Dieu leur avait pas demandé de le faire. Le manque de sanctification, la négligence dans le service. Quand on n'est pas regardant sur ces choses-là, et on se dit, oh Dieu habitué. En d'autres termes, l'accoutumance à Dieu et aux choses de Dieu. Lorsque Dieu lui-même et les choses de Dieu, il perd son côté sacré et divin, nous allons sortir des limites parce que Dieu n'est plus à sa place. N'oublions pas, bien que étant fils de Dieu, nous sommes dans un domaine qui est sérieux, le domaine du divin et du sacré. C'est parce que nous, dans cette dispensation, on prend les choses à la légère. Dieu est du domaine du sacré. Du sacré. Pas, c'est pas l'amusement, il est du domaine du sacré. Nous confessons que nous connaissons le vrai Dieu. Et que tous ceux qui adorent des soi-disant divinités sur la terre adorent des faux dieux. Mais entre-temps, eux qui adorent les faux dieux, regardez le respect qu'ils ont de leurs faux dieux. Regardez la révérence qu'ils ont de leurs faux dieux. Regardez la discipline qu'ils ont avec leurs faux dieux. Nous qui prétendons connaître le vrai Dieu, regardez comment on le sert. Ça devrait nous parler. Regardez les musulmans. Regardez les gens de l'Inde. Regardez comment ils servent. Nous, on est content de dire qu'eux sont dans le faux. Et que nous, on connaît le vrai Dieu. Mais ce vrai Dieu-là, nous le servons. Comment? C'est le problème. Parce que la Bible déclare que nous sommes dans le véritable. Et c'est vrai. Mais entre-temps, est-ce que nous avons compris qui... On revient encore. Est-ce que nous avons compris qui il est? Parce que eux qui prient les faux dieux-là, ils savent qui sont ces faux dieux-là pour eux. Hein? Pour ces faux dieux-là, ils sont prêts à s'abstenir, à se sacrifier. Ils sont prêts même à tuer pour leurs faux dieux. Hein? Mais nous, qui est-il? Puisque nous disons que nous sommes dans le véritable Dieu. Ça doit nous pousser à réfléchir. Ils n'ont pas pris Dieu au sérieux. Et quand nous ne prenons pas Dieu au sérieux, quand nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, on va se disqualifier. Ça, je vous assure. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Nous sommes dans un contexte où ce que nous sommes et ce que nous faisons, c'est du domaine qui n'est pas naturel et normal. Ce n'est pas normal. Être chrétien, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de normal. Hein. Peut-être que vous pensez que c'était un accompagnement, un ajout, comme on ajoute la psychologie. Non. Nous sommes entrés dans autre chose. Et la chose dans laquelle nous sommes rentrés, elle est d'abord spirituelle et c'est sérieux. Parce que dans le monde spirituel, l'ennemi de nos âmes, lui, ne rigole pas. Hein. Parce qu'on est devenu chrétien, entre-temps, nous avons un adversaire qui, lui, prend très au sérieux comment nous déstabiliser, comment nous créer des problèmes. Donc ça veut donc dire que Nous sommes dans une affaire qui est sérieuse. Ne fût-ce qu'à cause de notre adversaire, comprenant le sérieux de l'affaire dans laquelle nous sommes. Ne fût-ce qu'à cause de Satan, du diable. Ne fût-ce qu'à cause de lui. De vous rendre compte que la vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Ne fût-ce qu'à cause de lui. Sinon, si on n'a pas encore intégré toutes les vérités, mais ne fût-ce qu'à cause du diable. Comprenant que nous sommes dans un truc qui est sérieux. Et qu'on a intérêt à être sérieux parce que lui, il ne dort pas. Et il ne joue pas. Lui, il ne joue pas avec nous. Hein. Vous voyez tous dans nos vies ce qu'il fait. Hein. Quand il décide de rentrer, quand il décide de ravager, il ne rigole pas. Hein. Donc, c'est pour dire que lui, il prend très au sérieux comment nous détruire. Nous également, prenons très au sérieux comment servir notre Seigneur. Parce que ce n'est pas de l'amusement. La vie chrétienne, ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. Ce n'est pas une association, on se retrouve là juste pour un temps. Non, c'est toute une vie jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, si nous sommes négligents, si nous ne prenons pas Dieu au sérieux, comme les fils d'Aaron, comme Moïse, nous aurons des problèmes. Et ça, j'insiste sur la négligence que nous allons voir dans Jérémie 48, verset 10. La négligence, ne pas prendre Dieu au sérieux d'une part, et puis être négligent. Jérémie 48, le verset 10. Les choses de Dieu, frères et sœurs, où on s'engage ou on s'engage pas. Parce que la négligence dans les choses de Dieu, frères et sœurs, c'est pas bon. D'ailleurs, il y a une malédiction qui est rattachée à la négligence. Il a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Déjà à cette époque-là, vous voyez que l'œuvre de Dieu, il fallait être vraiment engagé. Ce n'est pas la négligence. Ce n'est pas de la négligence. Donc, par les compassions du Christ, frères et sœurs, ne soyons pas négligents dans les choses du Seigneur. Notre vie chrétienne ne sont pas négligents. Parce que nous sommes en train de construire quelque chose avec le Seigneur. Et ça, il faut être très sérieux. La négligence, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des exigences, il y a des standards, vous voyez. Un hôtel 5 étoiles et un hôtel qui n'a que 3 étoiles, ils n'ont pas les mêmes exigences. Ceux qui sont dans le 5 étoiles, ils seront très pointueux. Et très exigeant, même dans les détails. Ceux qui sont dans les 3 étoiles, ils seront plus ou moins pas trop regardants. C'est à cause de la catégorie de leur clientèle. Ceux qui sont dans le 5 étoiles, ils veillent à ce que ça soit vraiment nickel, propre, qu'il n'y ait point des choses à redire. Mais c'est la même chose. Quand nous servons Dieu avec négligence, nous renvoyons un message à ceux qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Nous faisons comprendre à ceux qui ne le connaissent pas que Dieu, il est comme ça. C'est du n'importe quoi. On peut faire ce qu'on veut. Dieu, il comprendra. Dieu, c'est comme une poubelle. C'est comme la déchetterie. On emmène tout. Les tout venants, les herbes vertes là, les bois, les ferrailles, tout va. Dieu, plus important, venez seulement. Faisons seulement. Non, c'est pas faisons seulement. Dieu est saint. Et ceux qui ont vu des apparitions de Dieu, ceux qui ont été visités par Dieu, ont été confrontés à la sainteté de Dieu. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il a rencontré Dieu, il a expérimenté Dieu, et puis tu es resté tranquillement comme ça, là, sans que tu te rendes compte que tu ne peux pas supporter la gloire de Dieu dans ton corps de péché. Tout de suite, tu vas crier comme Esaïe, malheur à moi. Je dis, non, mon lèvre n'aime plus. Malheur à moi, parce que tu es confronté à ton péché. Parce qu'il y a des péchés, peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais lorsque la sainteté de Dieu arrive, même le péché le plus enfoui va être révélé. Même ce que tu ne pensais pas un seul instant, mais face à Dieu, ça va remonter subitement comme ça à la surface et tu vas être confronté à ton propre péché. Malheur à moi. Parce qu'il n'y a rien qui soit caché, qui soit découvert devant Dieu. Tout remonte. La Bible éclaire que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il a un détecteur de péché et de mal. Il le sent tout de suite. On ne peut pas se rapprocher de Dieu sans que lui, il sente et qu'il sache qu'il y a plein de choses encore qui sont fausses. Lui, il connaît tout, hein. C'est pourquoi je vous avais dit une fois que lorsque nous sommes face à un Dieu qui nous passe tous au scanner, comment ne pas être droit comme des i? Quand on n'est pas droit comme des i, soit on ne connaît pas Dieu, ou bien on connaît Dieu, mais on est vraiment dans le régime, dans le mode insensé. Hein, on est vraiment des insensés, on ne veut pas. On veut faire comme les autres, à se cacher de Dieu, comme si Dieu pouvait se cacher de lui. On veut faire comme Jonas, aller fuir, comme si Dieu pouvait fuir Dieu. Quand on connaît Dieu, on ne peut même pas fuir. Celui qui connaît Dieu dans ce qu'il est, il ne peut même pas chercher les tunnels parce que Dieu est. Même dans ton tunnel, là, il est là. Tu vas changer de pays, il est là-bas, il t'attend déjà là-bas. Tu arrives, mais il est là. Quand tu comprends ça, il est présent à tous les niveaux de notre vie. Dans le visible comme dans l'invisible. Dans ce qui est révélé comme dans ce qui est caché dans nos propres pensées, l'univers de nos pensées. Il est bien présent. Quand on prend conscience que ce Dieu-là, il nous sonde, il nous passe tous à l'IRM spirituel. On ne joue pas, hein? Pourquoi nous jouons? Parce que Dieu n'agit pas comme autrefois. Dans le sens où la terre ne s'ouvre pas et puis les gens ne sont pas morts tout de suite. C'est à cause de ça que nous jouons. Mais ce que nous oublions, c'est que si Dieu n'agit pas tout de suite dans le jugement, c'est parce que nous sommes actuellement dans la grâce. Et dans la grâce, Dieu veut que les gens se répandent. Dieu veut sauver. Hier, il n'y avait pas la grâce. Là, il y a la grâce. Et dans la grâce, nous sommes dans le ton de la patience de Dieu. Dieu est patient. Mais n'oubliez pas que la grâce, là, c'est pas pour l'éternité. Hein. Ça s'arrêtera. Et quand ça s'arrêtera, on se tiendra devant le Seigneur et qu'est-ce que nous dirons à Dieu? Qu'est-ce que nous dirons au Seigneur? Ils ont cru bien faire, mais Dieu n'était pas avec eux. Frères et sœurs, la négligence dans les choses de Dieu, ça va vous coûter. Hein? Et la première activité dont je parle ici, je ne vous parle pas de courir à droite et à gauche dans les activités d'une communauté, je parle d'abord de vous-même qui êtes le temple. C'est d'abord votre propre vie que vous devez prendre au sérieux. Ce n'est pas courir à droite à gauche dans les activités de fidèles. Je parle de votre vie, de notre vie, parce que nous sommes le temple de Dieu. Et il veut que dans notre propre vie, que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Parce que si nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, même si on court à droite et à gauche, ça ne représente rien pour le Seigneur. Parce que le temple, c'est vous et moi. C'est d'abord ta propre vie, comment tu vis. Est-ce que tu te prends au sérieux ou pas? C'est ça le véritable enjeu. Parce qu'on serait tenté de faire beaucoup d'activités, d'être engagé dans beaucoup d'activités et se dire que là Dieu il est content parce que je le fais bien. Tu peux bien faire beaucoup d'activités et puis ne pas t'occuper du temple que tu es. Et ça on le verra dimanche prochain. Parce qu'on va parler de ces choses-là, d'un autre point par rapport au temple. Mais ce que je tenais à vous dire ce matin, frères et sœurs, le manque de sanctification et la négligence vous fera sortir. Donc, on ne sert pas Dieu, on ne marche pas avec Dieu comme on veut. Parce que même pour s'approcher de lui, on l'a vu, il faut être sanctifié, mis à part, séparé. Parce que c'est le Dieu que nous prions. Parce que je ne peux pas vous présenter un autre Dieu que celui que je vous présente à travers le livre. Sinon, je peux vous présenter un autre Dieu, mais qui ne sera pas le Dieu de la Bible. Ces choses que je vous partage, ce sont des choses qui sont rattachées au Dieu de la Bible. Ce n'est pas autre chose. On ne peut pas vous donner un Dieu sur mesure. La Bible nous le révèle tel qu'il est. C'est pourquoi je prends le temps de lire plusieurs passages pour que nous découvrons Dieu. Ce n'est pas mon Dieu, c'est le Dieu tel qu'il est révélé de la Bible. Donc on n'a pas d'autre choix que de chercher à comprendre, à connaître qui il est par rapport à la révélation qu'il nous a déjà faite. Et ça, frères et sœurs, c'est à notre avantage, c'est pour notre bien. Et je vous ai dit, et je reviendrai toujours là-dessus, toujours sur le qui il est. Ben, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, là. Parce que jusqu'à présent, je continue à m'interroger sur ce que je vous ai dit le dimanche passé. Comment des personnes qui sont, disons, connues Dieu, peuvent-ils arriver à un niveau de prostitution où ils vont adorer d'autres dieux, là? C'est-à-dire que je ne sais pas, c'est pas que ça m'a traumatisé, mais je reste quand même très dans la méditation parce que je n'arrive pas à comprendre. Je vous ai parlé de la dernière fois, comme en contextualisant la situation. Aujourd'hui, je vais aller en Inde. On dit qu'il y a un dieu par habitant. Comme ça qu'on définit l'Inde. Un dieu par habitant. C'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, nous qui parlons de Yahvé, de Yeshua, le Dieu de la Bible, et un beau matin, on se réveille et on commence à invoquer tous ces dieux-là dans nos maisons, mais leurs statues, leurs photos, du jour au lendemain. Mais c'est ce que Israël a fait. Comment vous expliquez ça? Comment vous pouvez l'expliquer? Ça veut donc dire, comme dit souvent ma propre femme, le cœur de l'homme, il est mauvais. Le cœur de l'homme, il ne faut pas trop s'attacher au cœur de l'homme parce que notre cœur là-haut, il peut nous jouer des tours. Hein? Le cœur de l'homme, parce que tout vient du cœur. L'adoration part du cœur. Alors si eux ont adoré ces autres dieux là, ils ont servi ces dieux, comment le cœur peut-il vite changer? Comment notre cœur peut-il vite changer? Et ça, moi, ça me pousse à la réflexion. Je ne peux pas jouer avec ça. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas... Parce qu'à la rigueur, on peut dire qu'ils sont tombés, ils ont commencé un peu à se faire du mal entre eux. À la rigueur, ça. Mais ils ont carrément changé d'objet d'adoration pour aller... On dit qu'ils sont allés servir ces autres dieux-là. Je dis, mais comment on peut arriver jusqu'à se prostituer à ce niveau-là? Jusqu'à ce niveau-là. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi lorsque Dieu parle de notre cœur, il n'en parle pas dans des termes élogieux. Hein? Le jugement du cœur de l'homme par rapport à Dieu, il est implacable. Il dit que notre cœur, il est mauvais. Il est tortueux. Si ce n'était que nous, dans notre nature, il a dit personne ne cherche Dieu. Personne. Donc, ça veut dire que nous qui l'avons trouvé, là, c'est une grâce. Parce que naturellement, personne ne cherche. Et personne ne veut de lui. Et lui-même, Dieu, il le sait. Donc, le fait d'être aujourd'hui en Christ, c'est une grâce. La Bible dit, vous êtes sauvés par grâce. Au moyen de la foi, mais la même foi là qui la suscite, c'est toujours le même Dieu. C'est pourquoi on résume tout par la grâce. Parce que naturellement, personne ne cherche Dieu, personne ne veut Dieu. Quand on voit ça, on se dit, Seigneur, mon Dieu, aide-nous à comprendre qui tu es. De telle sorte, parce que le Seigneur Jésus s'était vertueux à prendre plein d'images pour nous expliquer l'importance du royaume de Dieu. Il dit, c'est comme quelqu'un qui a trouvé une perle de grand prix, qui a tout vendu pour la perle. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on a compris qu'il est une perle de grand prix? C'est ça le problème. Jésus a tout fait pour nous faire comprendre son importance et sa valeur. Pour que notre engagement soit un engagement réfléchi. De telle sorte que même si tu perds tout, mais tu t'es attaché au meilleur. Mais aujourd'hui, on joue parce qu'on n'a pas compris l'importance de qui il est, c'est tout. Quand tu sais que tu as quelque chose qui a du prix, qui a de la valeur, tu veilles sur la chose en question. Mais c'est parce qu'on joue aujourd'hui. Pourquoi nous jouons? Et ça, encore une fois, frères et sœurs, pour ne pas tomber dans le pays d'Israël, il faudrait qu'encore une fois cette semaine, on puisse réfléchir. Pourquoi nous jouons comme ça avec Dieu? Que ce soit une réflexion de cette semaine, je vous assure. Pourquoi on joue comme ça? En se posant les bonnes questions, est-ce que réellement je connais sa valeur? Parce que si je connais la valeur de Dieu, je serai prêt à tout pour lui. Mais comme nous ne sommes pas prêts à tout pour lui, c'est parce qu'on ne connaît pas bien la valeur. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment fait? Pourquoi? C'est ça, non? Parce qu'il faut, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que Dieu ne fait pas assez dans nos vies pour qu'on ne soit pas suffisamment rassuré? Pourquoi on ne lui accorde pas la place qu'il faut? On veut quoi? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Quel signe on attend de Dieu pour totalement s'engager pour lui et avec lui? On attend quoi? Est-ce que notre confiance est à 50, 40, 30%? Mais pourquoi elle n'est pas à 100%? Quelles sont nos craintes? Quelles sont nos peurs vis-à-vis de Dieu? Pourquoi notre engagement n'est pas total? Pourquoi, frères et sœurs, nous sommes toujours un pied dedans, un pied dehors? Qu'est-ce qu'il nous a fait, ce Dieu-là, pour que nous ne soyons pas totalement engagés pour lui? Autant de questions que je vous invite à vous poser cette semaine, parce que ce sont des questions qui sont cruciales, importantes. On ne peut pas aller loin. Si nous ne trouvons pas des réponses à ces questions-là, vous n'irez pas loin. C'est-à-dire que vous allez commencer et puis à un moment donné, vous allez vous arrêter et vous allez trouver une autre activité, un autre hobby, un autre passe-temps. Dieu n'est pas un passe-temps, Dieu n'est pas un hobby. Et c'est ça, je vous assure, quand vous lisez la Bible, faites comme moi, posez-vous des bonnes questions sur Dieu et sur vous-même. Et cette semaine, je nous invite encore à cette grande réflexion de qui il est. Et ça sera comme un disque jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève de la France ou bien m'emmène ailleurs. Je n'hésiterai pas de vous faire tourner le même disque, qui il est. Mon but, c'est de nous amener tous à comprendre qui il est. Parce que tout se construira autour de la révélation de Je suis. Si on ne comprend pas qui il est, on n'ira pas loin avec le Seigneur. On va venir perdre notre temps. Et moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. On est là pour avancer, pour le connaître davantage. C'est ça le but. Donc je vais nous inviter à la prière. On va prier pour soi-même. On va prier pour cette semaine qui va commencer, que nous puissions véritablement nous disposer à pouvoir poser ces questions au Seigneur et également à être prêts à entendre les réponses de Dieu, ce que Dieu va nous dire sur nous-mêmes. Notre Père et notre Dieu, nous te prions encore ce matin afin que tu nous aides à pouvoir, selon ta grâce, bien sûr, nous poser les questions qu'il faut, parce que la nuit est avancée et le jour approche. Seigneur, nous ne voulons pas être surpris et nous ne voulons pas te servir juste par un mouvement. Il y a tellement des choses que tu veux nous faire comprendre. Il y a tellement des vérités que tu aimerais que nous puissions saisir. Alors je prie ce matin pour cette semaine qui va commencer pour moi-même et pour mes frères et sœurs, que nous puissions être vraiment, Seigneur, à tes pieds pour pouvoir se poser ces questions, combien fondamentales, combien importantes, Seigneur, sur nos craintes, sur nos peurs, sur notre manque d'engagement. Pourquoi nous ne sommes pas totalement engagés pour toi? Pourquoi nous ne te faisons pas totalement confiance? En dépit de tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, qu'est-ce qui nous retient encore, Seigneur? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine notre engagement pour toi? Nous avons besoin de pouvoir avoir du temps et se poser ces questions, combien importantes pour la suite de notre marche avec toi. Car Seigneur, comment pouvons-nous marcher avec un Dieu, avec le seul et vrai Dieu, si au préalable nous ne te faisons pas confiance, nous doutons de toi, nous doutons de ton amour, nous doutons de ta fidélité, nous doutons quasiment tout de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas te reléguer, Seigneur, à un simple rond d'une divinité que nous venons adorer le dimanche en ces lieux. Mais nous voulons véritablement que tu aies ta place, Seigneur, celle que tu as toujours eue et que tu devrais toujours avoir, être au centre de notre vie. Car à cela, nous sommes appelés à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, Seigneur Dieu, de toutes nos forces. Alors, nous voulons véritablement être dans cet élan, être dans cette dynamique-là, afin d'être des hommes et des femmes qui marchent avec toi de façon réfléchie, avec assurance dans la paix et dans la joie que nous donne le Saint-Esprit. Alors que ton nom soit béni, notre Père et notre Dieu, parce que je sais que tu as un désir, tu as une volonté de nous amener tous à la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ton nom soit béni, éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, puisque nous sommes en train de parler d'engagement, j'aimerais ce matin justement